I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table. Binge Audio présente...
Salut, c'est Thomas Rozek.
À Metz, où la poste principale a été ouverte par la police, les non-grévistes ont immédiatement rejoint leur lieu de travail. À Angoulême, les facteurs ont repris le travail à 90%. À Limoges, 600 postières manifestent pour travailler, ainsi qu'à Villeurbanne. Le travail reprendra dans ces deux villes mardi matin.
Vous avez sans doute, comme moi, déjà vertement pesté contre votre facteur ou votre factrice. Celui ou celle qui, au lieu de sonner chez vous alors que vous attendiez de pied ferme ce colis tant espéré, a osé se contenter de déposer dans votre boîte aux lettres un avis de passage affirmant que vous n'étiez pas là. Quelle audace, quelle incurie, quelle insulte! Vous l'avez mal vécu et voué aux gémonies. Pourtant, ce petit tracas dans votre quotidien d'usager de la poste, il est surtout l'illustration d'un mal profond qui ronge la vénérable entreprise de distribution du courrier. Le temps de ses employés, de nos postiers, est compté et ça pèse fort, très fort, sur leur vie et sur leur travail. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité, c'est le sociologue Nicolas Jounin, et c'est lui, ou plutôt ses enquêtes, qui sont à l'origine de cet épisode. Il vient d'en tirer un livre, baptisé Le cachet de la poste, paru aux éditions de La Découverte. Il y raconte en détail comment s'organise désormais de façon de plus en plus resserrée le travail des facteurs et des factrices, un travail qu'il connaît bien pour l'avoir suivi de nombreuses fois et pour l'avoir fait lui-même pendant plusieurs semaines. Je vais donc demander, pour démarrer, comment cette immersion avait débuté.
Ça a commencé par une recherche d'emploi comme facteur d'abord. J'avais projeté de m'y mettre une semaine avant la date à laquelle j'aurais bien voulu commencer. Donc craignant que ce soit un peu tard, et en fait c'était presque trop tôt puisque j'ai envoyé quelques mails de candidature le lundi à 8h du matin. Et à 9h du matin, le responsable de ressources humaines de l'endroit où j'ai travaillé m'appelait... Et était déçu d'apprendre que je n'étais disponible qu'à partir de la semaine suivante. Et donc j'avais rendez-vous avec lui le lendemain et il n'y a eu à peu près aucun test. Et j'avais presque la sensation que de son côté, il cherchait à me dégoûter ou du moins à me dessiller sur le métier en ne cessant de dire « Attention, facteur, il y a une image d'Épinal, on voit le facteur sur son vélo, on se dit « Il est de l'or, ça a l'air sympa ». Mais en fait, c'est long, c'est dur, c'est par tous les temps, encore plus.
60% des gens démissionnent au bout d'une semaine. Enfin, c'est ce qu'il vous dit dès le début.
C'est ce qu'il me dit, effectivement. Donc, et on sent en fait, dans la manière dont il se comporte, que l'enjeu, c'est de faire en sorte de faire diminuer un petit peu ce taux et que les gens partent pas au bout d'une semaine, mais que c'est extrêmement difficile étant donné les conditions qu'il propose et sur lesquelles il n'y a pas tellement de maîtrise.
Et après, la première journée de travail, ça ressemble à quoi ?
La première n'est pas la plus dure parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas l'expérience forcément de tous les facteurs en CDD ou en intérim, mais moi j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle en doublure, donc être avec un facteur qui est sur une tournée qu'il connaît bien, que je serais amené à remplacer, mais du moins au début je ne fais que l'accompagner, éventuellement l'aider un petit peu à trier, à distribuer. Et donc c'est vraiment une familiarisation du métier qui fait une journée assez longue parce que je ralentis le facteur, ses heures supplémentaires ne sont pas payées, les miennes non plus, mais du moins, il y a une espèce de socialisation tranquille au métier. Mais c'est vrai que je suis arrivé une semaine après ce qu'on appelle une réorganisation, et donc 8 jours plus tard, survient une réorganisation, c'est-à-dire en fait un grand chamboulement de tout le bureau. Toutes les tournées qui existaient jusque-là ont été refondues dans un même moule, donc ce que j'avais appris une semaine auparavant était déjà, n'avait plus aucune valeur. Et le nombre de tournées était réduit, le nombre d'emplois était réduit, et avec un nombre de facteurs réduit, il fallait donc continuer à trier et distribuer le courrier pour le même périmètre, la même ville, mais avec du coup des tournées qui étaient rallongées, surchargées même pour un certain nombre de facteurs.
À quoi ça ressemble la journée type, si tant est qu'il y en ait une, d'un facteur ? Parce que nous, en tant qu'usagers de la Poste, on n'en connaît finalement que quelques petites parties immergées, le moment où on passe nous poser une lettre ou alors notre interaction avec les employés de la Poste quand on va déposer un colis. Mais qu'est-ce qui se passe le reste du temps ? C'est quoi la journée d'un facteur ?
Alors la journée classique, historique, on va dire, parce que c'est en train de beaucoup changer d'un facteur, c'est d'abord passer 2-3 heures au centre de distribution du courrier, face à des casiers de tri, puisqu'on a une partie de... Donc, il y a de plus en plus les machines en amont de ces centres-là qui trient le courrier, mais il reste encore une partie incompressible à trier. Trier aussi des objets suivis ou recommandés. Trier aussi des petits paquets internationaux qu'on se fait livrer de plus en plus, depuis la Chine principalement. Donc, il y a tout ça d'abord qu'il faut trier sur son casier, avant ensuite de l'emporter sur son vélo, dans sa voiture ou dans un autre moyen de locomotion, pour aller le distribuer sur la tournée. Et cette partie-là prend de plus en plus de temps proportionnellement, parce qu'il y a de moins en moins de tri, puisque c'est de plus en plus fait par les machines. Et puis, pour un certain nombre de facteurs, et c'était le cas pendant une des semaines que j'ai passé là-bas, en fait, on passe son temps à toute sa journée uniquement à distribuer dehors 7 heures, donc avec le temps qu'il fait, le temps qu'il peut faire en ce moment, par exemple, 7 heures toute la journée, parce que tout a été trié auparavant par quelqu'un d'autre. Donc, il y a une division du travail, une division des tâches approfondies qui se met en œuvre.
Vous avez cité un mot très important dans tout ça, c'est le mot « le temps ». Le calcul du temps qu'il faut pour faire telle ou telle tâche, et notamment pour distribuer le courrier en fonction des tournées, c'est devenu un enjeu, alors j'imagine que ça l'est depuis longtemps, mais c'est devenu un enjeu d'autant plus crucial qu'il n'est plus mesuré du tout de la même façon qu'on le faisait jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, une quinzaine, vingtaine d'années à peu près.
Oui, parce que ce que j'ai décrit du métier du facteur, il y a du tri, puis il y a de la distribution, à la limite tout le monde peut s'en douter. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est au fond combien de boîtes aux lettres il a le facteur sur la tournée quand il nous dessert. Quand on est sur une tournée rurale, on va dire qu'il va y avoir 300, 400, 500 adresses différentes desservies par le facteur. Quand on est sur une tournée urbaine, comme c'était sur mon cas par exemple, dans des cités, des grands ensembles, etc., on peut avoir une cinquantaine d'adresses à desservir, mais 1400 boîtes aux lettres à desservir. Donc c'est important, et c'est de plus en plus important. Alors comment la Poste se dit, tiens, en fait, on peut rajouter à chaque fois, chaque réorganisation, c'est-à-dire à peu près tous les 18 mois ou tous les 2 ans, on peut rajouter à nouveau du courrier supplémentaires, des rues supplémentaires, des boîtes aux lettres supplémentaires aux facteurs. Eh bien, elle le fait non pas en allant sur le terrain pour voir combien durent effectivement les tournées, ce qu'elle faisait il y a encore 15 ou 20 ans, mais elle le fait au moyen d'un logiciel qui, de manière automatique, en rentrant un certain nombre de paramètres, le trafic estimé, le nombre de boîtes aux lettres, les distances, et puis des normes et cadences qui moulinent tout ça et qui permettent de donner des durées, enfin ce que la Poste appelle des normes et cadences, donc voilà, des cadences au sens taylorien, ça donne une durée théorique de la tournée. Et le souci, c'est que de nombreux facteurs, moi dans ma petite expérience de débutant, mais de nombreux facteurs extrêmement confirmés, estiment que ces durées sont complètement farfelues, irréalistes et ne correspondent pas à la réalité de leur charge de travail. Et c'est tout le nœud que j'essaie d'explorer dans le livre.
Est-ce qu'on peut illustrer ça avec la tournée que vous avez notamment dû faire plusieurs fois? Combien de temps elle durait? Qu'est-ce qu'elle représentait en volume? Et combien de temps surtout ça vous prenait en vrai, comparé à la durée officielle?
Alors la tournée que j'ai faite à partir de la réorganisation, on va le prendre comme ça, puisque toutes les tournées ont été refaites de manière à remplir une journée de travail d'à peu près 7 heures. 7 heures par jour, donc 5 fois 7, 35 à la semaine, même si on travaille le samedi, bah, on peut avoir un repos auparavant. Donc elle était supposée de programmer pour 7 heures. Moi, je ne m'en sortais jamais en dessous de 8 heures et assez souvent 9h, 10h. Et quand je dis 9h, 10h de travail, c'est sans pause, hein, sans prendre la pause qui est théoriquement incluse dans cette évaluation de la charge de travail. Donc c'est en grignotant des biscuits en même temps que je distribue le courrier. Et on pourrait dire, et c'est parfaitement légitime, que moi j'y ai travaillé que 5 semaines, je suis novice, c'est normal si je suis un peu lent. Mais beaucoup, encore une fois, beaucoup de facteurs tout à fait confirmés étaient confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes sentiments de surcharge.
Et combien de boîtes aux lettres ça représentait, ces 7 heures théoriques qui donc étaient plutôt 8 ou 9 en réalité?
Environ 1500. Et un gros millier de courriers à peu près chaque jour à distribuer, et entre 30 et 60 recommandés, lettres recommandées à tenter de remettre en main propre. La vérité oblige à dire, et je m'en excuse aux gens qui étaient sur ma tournée ou sur celle des collègues, que en fait, bien souvent, et même les chefs y incitent, voyant qu'on n'y arrive pas, on avise d'office, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de savoir si la personne se trouve effectivement chez elle, parce qu'on a tellement d'usagers à aller voir qu'il n'est pas possible de se chez chacun, chacune.
Ce qui est une expérience, pour le coup, que pas mal de gens qui reçoivent du courrier ont pu faire. Il y a plusieurs choses en filigrane de votre étude et de votre enquête, c'est une enquête. Il y en a une qui revient de manière récurrente et de manière assez humoristique d'ailleurs, c'est la dimension taylorienne, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas de la part du taylorisme que prend le calcul justement qu'on évoquait à l'instant dans la poste.
Oui, effectivement, le livre entrecoupe trois récits. Mon immersion dans ce centre percutée par une réorganisation, c'est-à-dire une réduction du nombre de tournées et un allongement des tournées restantes. Ensuite, notamment à partir de travail d'archives ou d'entretien avec des cadres de la Poste, essayer de comprendre comment justement la Poste a dessiné, découpé ces nouvelles tournées et évalue la charge de travail et prescrit la charge de travail des facteurs. Et puis un troisième récit constitué un peu en décalage, constitué par des dialogues imaginaires avec Taylor, donc le fondateur du taylorisme, en tout cas celui après qui on a nommé le taylorisme, donc ingénieur états-unien de la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors des dialogues imaginaires que j'ai écrits, forcément, Taylor est mort depuis plus d'un siècle, mais en même temps qui sont fondés sur la lecture et la citation assez régulière de ses œuvres complètes. Et ce parallèle avec Taylor que j'ai voulu traiter sur un mode un peu léger, en même temps, il vise justement à montrer, à faire ce parallèle entre la prétention scientifique de Taylor à dire voilà quel est le temps correct, raisonnable, scientifique, objectif qu'il faut mettre pour faire tel ou tel geste productif. Et c'est exactement la même posture de la Poste. Voilà tel temps et c'est pour faire votre tournée et c'est parfaitement indiscutable et c'est la science qui l'a dit. Donc il y a d'une part cette prétention à la science et il y a aussi de part et d'autre, en fait, quand on gratte pas énormément, il suffit pas, c'est pas la peine d'aller très très loin, des défaillances méthodologiques énormes qui les privent de tout droit à se réclamer de la science. Et par ailleurs, quand bien même il n'y aurait pas cette défaillance méthodologique énorme, quand je parle de défaillance méthodologique énorme, pour la Poste, ça va jusqu'au fait que les normes et cadences qu'elle a utilisées pendant une quinzaine d'années, elle a dû finalement, contrainte et forcée par des tribunaux, admettre qu'elle en avait perdu les documents qui les justifiaient, puisqu'elle aurait dû, les tribunaux l'obliger à les remettre aux représentants du personnel qui en faisaient la demande. La Poste se défendait en disant « c'est parfaitement scientifique, sauf qu'on ne sait pas comment on les a fait ». Donc, du coup, ça devient difficile de défendre que c'est parfaitement scientifique. Et si, même si elle avait été un peu plus prudente dans la gestion de ses archives, il reste qu'il y a tellement de dimensions dans le travail de facteur, dans tout travail, mais en particulier dans le travail de facteur, qui se passe en extérieur, dans un environnement que la Poste elle-même ne peut que difficilement maîtriser, que une modélisation de la charge de travail pourrait éventuellement être un outil de meilleure compréhension, mais ne saurait dire exactement combien dure telle ou telle tournée. Donc il y a une prétention scientifique qui est en fait qui cache la volonté de monopoliser la description et la prescription du travail. Donc une manière de réinstaurer par le détour de la science le pouvoir de l'employeur.
Derrière ce vernis scientifique du taylorisme, il y a aussi une philosophie, en tout cas une vision du personnel productif, une vision très négative. Taylor, il compare souvent les ouvriers à des animaux. Il y a l'idée comme ça d'une population un peu inférieure qu'il faut dominer et ça infuse jusqu'à ses héritiers d'aujourd'hui, en tout cas ceux qui reprennent plus ou moins ces méthodes et qui aussi embarquent avec eux un peu de cette philosophie.
C'est assez frappant dans les écrits de Taylor, effectivement, ce mépris qu'il peut avoir à l'encontre des ouvriers. Et en même temps, il y a une forme d'ambivalence, c'est qu'il ne les prend pas par principe uniquement pour des imbéciles, puisqu'il considère qu'il y a tout un savoir-faire qui existe dans la tête et dans les mains des ouvriers, et que le rôle des ingénieurs comme lui, justement, est de leur extraire ce savoir-faire, de le compiler, de le codifier, de le rationaliser, d'établir des lois scientifiques pour, en retour, prescrire le travail des ouvriers qui, du coup, seraient dépossédés de leur propre expertise sur leur travail. Et effectivement, du côté de la Poste, il y a une posture, alors il n'y a pas des comparaisons animales, mais il y a une posture analogue, du fait que d'une part, il y a une dépossession des facteurs sur leur conception du travail bien fait. Par exemple, quand ils vont parler avec un usager pour, par exemple, donner un renseignement sur des activités postales, pour eux, ça participe du service public qu'ils rendent, donc ça participe de leur travail, de leur métier, alors que la Poste va le considérer comme un temps parasite. Parasite étant vraiment un terme postal de la direction de la Poste. Du même coup, ça dépossède les facteurs de leur perception du temps qui est nécessaire à la réalisation de leur activité.
L'autre chose qu'on retrouve évidemment en filigrane, c'est le changement et le bouleversement profond qu'a connu la Poste depuis 20 ans, qui est son changement de statut. Est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer vite fait en deux mots pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'en auraient pas forcément conscience, quel est le statut aujourd'hui de la Poste, qui n'est plus ce morceau de service public à 100%, qui a changé de format en gros?
Alors c'est toute la complexité de ce qu'on appelle le service public aujourd'hui, dans le sens où la Poste a encore des missions de service public, qu'elle est seule à avoir, par exemple en termes d'aménagement du territoire, de distribution du courrier 6 jours sur 7, par exemple. Mais c'est une société anonyme, qui pourrait donc être privatisée du jour au lendemain, l'ouverture du capital pourrait être prononcée, mais qui reste détenue par l'État directement ou indirectement à travers la Caisse des dépôts et consignations. Probablement parce que elle est insuffisamment rentable pour être privatisée comme a pu l'être France Télécom. L'essentiel du capital de France Télécom maintenant n'est plus public parce que France Télécom a trouvé des relais de croissance, notamment à travers Internet et la téléphonie mobile. Alors que la Poste, on cherche à se développer dans le secteur de la banque avec plus ou moins de succès. Enfin, se développer davantage, évidemment, la banque postale existe depuis un moment. Mais du point de vue du courrier, elle est confrontée quand même à une baisse des volumes massives des volumes de courrier. Alors, qui sont en partie compensés par le maintien de la lettre recommandée, par l'augmentation du nombre de colis du fait du développement du e-commerce et des petits colis. Mais ça pose quand même une contradiction économique à la Poste, qui est qu'on paye pour envoyer des courriers, on ne paye pas pour recevoir, comme dans le cas d'une box Internet. Donc la baisse des volumes, très clairement, elle a un impact sur les recettes de la Poste. Alors qu'en même temps, le nombre de routes, de rues à desservir, le nombre de boîtes aux lettres dans lesquelles il faut déposer du courrier, ça ne cesse d'augmenter. Donc, d'une certaine manière, mécaniquement, les facteurs sont moins productifs puisqu'ils doivent parcourir tout autant de kilomètres, ils doivent aller voir davantage de boîtes aux lettres pour un volume de courrier qui est moindre. Et donc la Poste tente de résoudre cette contradiction économique par différentes choses. Hein. Ça peut être l'augmentation du tarif, ça peut être la mécanisation du tri, donc l'augmentation de la productivité en faisant faire par des machines ce qui a été fait par des humains, mais aussi en cherchant à avoir davantage de travail humain de la part des facteurs, en leur soutirant davantage d'efforts, davantage d'amplitude, de longueur de journée, davantage d'intensité au travail pendant cette journée, au moyen justement de ces réorganisations périodiques, de cette prescription pseudo-scientifique de la charge de travail et du rallongement tous les deux ans à peu près des tournées.
Et l'un des bouleversements profonds aussi, et vous le mentionnez, c'est le changement de statut des facteurs, des postiers, des postières, qui ne sont plus des fonctionnaires comme ils l'ont été. Je crois que ça s'est arrêté en 2002, on a cessé totalement d'embaucher des fonctionnaires.
Alors on a complètement cessé d'embaucher des fonctionnaires en 2002, il n'y a plus de concours à partir de cette date, mais on avait déjà de mémoire un quart de contractuels de droit privé, donc pas forcément des gens en CDD ou intérimaires. Quand je dis contractuels, c'est principalement des CDI. Et maintenant, les personnes en CDI sont majoritaires à la Poste, les fonctionnaires ont vocation à s'éteindre au fil des départ en retraite, et on a toujours un contingent de 8-9% de CDD et d'intérimaires. Donc effectivement, ça change complètement le statut de ce qu'on pouvait appeler des agents avant, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des salariés, avec une certaine ambivalence, c'est-à-dire que je pense que les dirigeants qui se sont dit on va privatiser le statut des postiers à l'époque, avaient plutôt dans l'idée que des salariés de droit privé, bah, c'est plus flexible, c'est du droit privé, donc on peut davantage les licenciés, il y a moins de difficultés, etc. Et je pense qu'ils ne voyaient pas l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire que des fonctionnaires, leur régime de travail est soumis au fait qu'ils servent un intérêt général. Et donc, ça implique un certain nombre de suggestions qui ne s'appliquent pas forcément de la même manière dans le secteur privé. Je pense notamment à une suggestion temporelle. Les facteurs, des fois, ils partaient plus tôt, c'est ce qu'on appelle le fini parti quand il n'y avait pas beaucoup de courriers, mais en contrepartie, ils partaient plus tard, après l'heure théorique de fin de service, quand il y avait plus de courriers à distribuer. Et tout ça était supposé se compenser, et en tout cas, pas d'heures, les heures supplémentaires n'étaient pas payées. Dans le cadre du droit du travail privé, qui touche les salariés notamment en CDI, normalement, les dépassements horaires doivent être payés. Alors, c'est l'objet d'innombrables batailles aujourd'hui, d'interventions multiples et variées de l'inspection du travail. Autre chose, les instances de représentation du personnel dans le public ont relativement moins de droits que dans le privé, même si les droits des instances du privé ont été revus à la baisse avec les ordonnances Macron de 2017. Mais elles ont relativement moins de droits parce que là encore, les agents sont subordonnés à une idée que leur employeur représente l'intérêt général, donc ils ne peuvent pas le contrer aussi difficilement. Dans une entreprise, c'est intérêt particulier contre intérêt particulier. C'est pouvoir de direction de l'employeur contre quand même un certain nombre de limites à la subordination de ses salariés et un certain nombre de contre-pouvoirs. Et encore une fois, bon, au moment des ordonnances Macron, il avait été promis davantage de co-gestion. Bon, il n'en a rien été, donc les instances de représentation du personnel n'ont qu'un rôle toujours consultatif et ont le droit d'être informées. Mais parce qu'elles ont le droit d'être informées, justement, un certain nombre de comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail à la Poste ont pu demander ce qu'ils ne pouvaient pas avant que la Poste devienne une société anonyme. Demander un certain nombre de documents sur comment la Poste justement prescrit la charge de travail, comment elle évalue la durée des tournées. Et c'est à l'occasion de ces demandes répétées, même un peu teigneuses, puisque ça a fini au tribunal de ses représentants du personnel, qu'on a pu découvrir que la Poste, en réalité, n'avait plus rien à offrir à cette curiosité.
C'est sans doute le grand paradoxe de cette histoire. En détricotant son caractère public, la Poste se retrouve de facto contrainte à une plus grande transparence sur ses pratiques. Bon, pas sûr que ça suffise à améliorer totalement les conditions de travail de ses salariés, par contre. Merci à Nicolas Jounin pour ses réponses. Son livre, Le cachet de la Poste, il est disponible donc aux éditions de La Découverte. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.